gravure, ou gravure et ou graveur, que la semaine dernière nous avons travaillé autour de Rembrandt. Aujourd'hui, on va travailler autour d'un autre artiste qui est également un personnage très important quand on parle de la question de la gravure. Cet artiste, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, d'autres peut-être moins. Alors j'essaie. En ce moment, c'est un problème, ça. Bien. En ce moment, la flèche disparaît.
Déjà la semaine dernière. C'est marrant parce que
moi, je l'ai pas. Mais moi, je l'ai pas à l'écran. Déjà la semaine dernière. Donc, c'est très agréable. Pardon.
Juste entrer, ça passe à la
oui.
Suivante.
Bon, ben oui. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. De quoi, je crois, vous laisser phosphorer une minute, le temps où je l'esquive, et pour mieux revenir. Alors, je vous laisse phosphorer. Je vais ramasser le mis dans une minute.
Michel, tu connais pas ?
Si, si.
Ah.
Non, c'est pas tout ça.
Fais-nous, fais-nous le début de la... Oh, il y a du monde, hein. Oh, la vache.
Il y a un dragon qui...
Il y a plein de bestioles bizarres.
Il y a plein de choses.
Vous avez eu le temps de cogiter.
Cauchemardesque,
effectivement.
Oh oui.
Bien. Alors, commençons par un bout. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voulez représenter sur cette œuvre ?
Une scène apocalyptique.
Une sorte de scène apocalyptique, oui.
Ouais.
Qu'est-ce que vous pouvez dire que c'est apocalyptique ?
Parce qu'on voit les dragons au-dessus,
des
dragons, et puis en bas, des gens, des
diables.
Celui du milieu, c'est le diable.
Voilà, des diables, des monstres, une scène d'apocalypse. Ok. Mais encore,
il y a un canon,
des animaux.
Un canon, des animaux bizarres.
Ouais.
Des ruines. Oui, c'est assez.
C'est cauchemardesque.
Ouais. Cauchemardesque.
Et puis il y a, avec un texte.
Il y a un
texte.
Un texte.
Peut-être une dédicace.
Vraisemblablement une dédicace, effectivement.
Un blason.
Un blason.
Des
Souvent les... Oui, on peut peut-être expliquer ce que c'est qu'une dédicace, à votre avis ? Parce que souvent, effectivement, enfin, souvent, oui, assez souvent, des œuvres, notamment gravées, étaient dédicacées. Ça veut dire quoi ?
Ah oui, signé alors.
Alors, signé, mais aussi dédicacé. Il y avait une dédicace. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, un graveur, c'était une manière de s'assurer les amitiés de tel ou tel mécène, de tel ou tel personnage, faisait une œuvre, elle la publiait en l'honneur de monsieur un tel, madame parfois. Voilà, tel haut personnage, c'était une manière évidemment de s'attirer les, on dirait, l'intérêt de la personne en question. Ça pouvait quelquefois valider aussi les rapports de clients à artistes, si vous voulez. Enfin, voilà. Quand quelqu'un vous achète des œuvres, vous pouvez lui dédicacer une œuvre. C'est une manière de souligner ce lien-là, ou une manière aussi de solliciter ce lien. Enfin bref, voilà, il y a souvent des dédicaces. Ça peut être également une façon de s'attirer les grâces de telle ou telle personnalité haut placée. Hein. Enfin, donc... alors, je mentirais si je vous disais que j'avais vu ça, mais c'est assez vraisemblablement une dédicace que vous aviez effectivement là. Hein. Bien. Et au niveau du sujet, vous auriez d'autres choses à dire ?
C'est très théâtral.
Très théâtral.
Oui,
c'est important de le dire. Très théâtral. On a effectivement l'impression de, c'est d'une scène avec des, on appelle des pendrillons sur le côté, et puis hein, il y a un côté très théâtral. C'est vrai. Important de le noter, vous allez voir pourquoi. Ouais. Au niveau de la scène, vous voyez d'autres choses à dire ? On a déjà dit pas mal, mais...
Il y a des saints qui sont...
Il y a
un saint au moins qui est regroupé sous une arcade, à droite.
Ah oui.
À droite.
Oui, avec une auréole, on dirait qu'il a une auréole.
Ouais. Et ça vous dit quelque chose ?
Non.
Non ?
Non.
Là, vous avez un, voilà, vous voyez, un saint assis, effectivement, avec une auréole.
Oui, oui, oui.
Donc, effectivement, c'est le seul saint dans cette horde de dragons et de démons.
C'est Saint-Antoine. Qu'est-ce qui
s'est touffu ? Pardon ?
Ça, ça va être Saint-Antoine.
Eh bien, c'est Saint-Antoine. En fait, ce que vous voyez là, ce n'est pas simplement une scène cauchemardesque, ça n'est pas davantage une scène de l'Apocalypse, c'est... Saint-Antoine, et précisément quel épisode de sa vie ? Sa tentation. C'est la tentation de Saint-Antoine. Là, vous avez remarqué que le démon, il met le paquet.
Hein. Ah, oui.
Si Saint-Antoine ne succombe pas, franchement, il a un certain tonus. Hein. C'est la tentation de Saint-Antoine. Qu'est-ce que vous auriez à dire au niveau technique par rapport à cette pièce qui est d'assez grande taille ? Hein. Ça fait à peu près ça de large.
C'est probablement un cuivre.
Oui, c'est une pièce forte. Effectivement fait sur cuivre. Donc, quelle est la technique correspondante ?
L'eau forte.
C'est de l'eau forte. Hein. Comme ce que nous avons vu la dernière fois avec Rembrandt. Hein. C'est de l'eau forte. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que vous auriez à dire justement, au-delà du fait que nous sommes là devant une pièce à l'eau forte, hein, qu'est-ce que vous auriez à dire quant au maniement de l'eau forte par l'artiste ?
Il n'est pas mauvais.
Il n'est pas mauvais. Je crois qu'on peut évidemment dire ça. Je crois qu'il n'est pas mauvais. Parce que ce que vous avez là est quand même, on n'en a pas la dernière fois, hein, le résultat d'un dessin fait avec une petite pointe hein, sur une plaque de cuivre qui a été précédemment couverte d'un vernis. On vous avait expliqué tout ça la dernière fois. Tout ça demande quand même un certain brio, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Donc l'artiste qui a fait ça n'est effectivement pas mauvais, parce que vous remarquez à quel point, vous nous avez parlé de la perspective théâtrale tout à l'heure, hein. On a évidemment une perspective qui, vous voyez, va du noir le plus profond jusqu'au gris les plus vaporeux, hein, plus légers. Hein.
Est-ce que c'est une gravure de reproduction d'un peintre d'une peinture, ou c'est une gravure directe ?
C'est une gravure directe, originale. Hein. Vous avez, c'est important ce que vous dites parce que, vous savez, avant que la photographie n'existe, la façon de divulguer les œuvres d'art, c'était la gravure, et notamment l'eau forte. En gros, je ne sais pas, en Poussin, c'est une œuvre, hein, une peinture, bah, évidemment, elle appartenait à la personne qui l'achetait, mais au-delà de ça, l'œuvre n'était pas visible. Alors, pour diffuser les œuvres, il y avait des graveurs qui faisaient des reproductions des peintures, et ces gravures-là, elles étaient vendues, elles étaient écoulées, si vous voulez. Quelquefois, d'ailleurs, plusieurs gravures en faisaient, enfin, Voilà. Alors qu'à côté de ça, il y a des gravures originales. C'est-à-dire des gravures qui sont faites par des graveurs et qui ne sont pas des reproductions de peinture. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire, ce que vous avez là, ce n'est pas une gravure faite d'après un tableau pour divulguer l'image du tableau, on est d'accord ? C'est une gravure originale. Okay ? C'est le même cas que pour Rembrandt la semaine dernière. Vous vous rappelez, Rembrandt, on a vu la semaine dernière que ses gravures étaient indépendantes de ses peintures. Quelquefois, les sujets se recoupent. Hein. Il a fait des vieillards, etc., qui ressemblent aux philosophes qu'il a fait en peinture. Okay. Mais Rembrandt n'a guère fait, il y a peut-être un ou deux cas, mais de tableaux, ou plutôt de gravures, qui reprennent ses tableaux. Ces gravures sont des gravures originales. Donc, ne divulguent pas la forme d'un tableau. Là, c'est pareil. Ce que vous avez là est vraiment une œuvre originale qui n'est pas la reprise en gravure d'une composition peinte. OK ? D'ailleurs, cet artiste-là est un artiste qui a quasi exclusivement fait de la gravure. Il a fait du dessin, parce que souvent, on fait une gravure, on dessine d'abord. Hein. Donc, il a fait des... On connaît beaucoup de dessins de lui. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé exclusivement ou quasi exclusivement la gravure. Donc toutes ces gravures sont originales, faites pour être des gravures et pas des reproductions d'après des peintures. Ça, c'est effectivement ce que vous disiez, c'est capital, hein, c'est essentiel. Hein. Dans la gravure, il y a finalement deux types de choses. Dans la gravure ancienne, il y a les peintures originales, et puis la peinture sont des reproductions d'œuvres célèbres pour les divulguer. Là, c'est une gravure originale.
Est-ce que ça peut être le contraire ?
C'est-à-dire, il y a des gravures qui ont donné naissance à des tableaux. Oui, on connaît un certain nombre de tableaux qui ont été faits d'après des gravures, mais souvent pas par le même artiste. D'ailleurs, je connais, moi, des gravures faites par cet artiste-là qui ont donné naissance à des tableaux faits par d'autres. Vous voyez ? Ça se faisait, effectivement. Voilà. C'est pas toujours terrible, d'ailleurs.
Et quel est l'artiste, là ?
Ah, mais ça, c'est moi qui vous pose la question. Est-ce que vous connaissez, peut-être certains d'entre vous le connaissent, hein ?
Son nom était Grignac.
Oui, son nom était Grignac. Alors on va peut-être pas... Voilà.
Son nom
était Grignac. Voilà. C'est Jacques Callot. Hein, Jacques Callot. I.A. Callot. Hein, Jacques Callot. Hein. Jacques Callot, ça vous dit quelque chose ? Vous avez déjà entendu ?
Il y a une rue à Paris.
Il y a une rue Callot.
C'est un Lorrain.
C'est un Lorrain. Absolument.
Un Lorrain. Misère de la guerre.
Pardon ?
Il a fait des gravures sur la guerre.
Absolument, tout à fait.
Oui, mais ils sont très différentes de ça.
Oui, avec une... Enfin, on va voir. Après, ouais. On va voir. Donc, Jacques Callot est effectivement un artiste lorrain qui est un producteur de gravures absolument exceptionnel. C'est au niveau de la qualité des œuvres. Hein. Vous disiez là, absolument pas mal. En fait, c'est même virtuose. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Et c'est quelqu'un dont la production est énorme. Hein. On estime son œuvre gravée à plus de 1600 pièces. Rien qu'à la Bibliothèque nationale, on possède plus de 900. Donc, vous voyez, c'est un artiste prolifique qui a fait un nombre de gravures extraordinaires. Alors là, effectivement, cette œuvre qui est là pour rentrer dans le sujet... Bon. C'est la tentation de Saint-Antoine. Hein. Jacques Callot, vous voyez, il est né à Nancy, il est mort à Nancy, mais il y a une petite surprise que je ne vous dévoile pas encore. Il est né, vous voyez, à la fin du 16e, il meurt en 35, c'est-à-dire que sa carrière est assez courte, hein, il aura 45 ans, je crois, enfin, c'est pas énorme. Hein. Et pourtant, sa production est énorme et virtuose. Hein. Cette œuvre-là est très très célèbre dans le domaine des connaisseurs de gravures, parce que c'est vraiment un travail... fou. Alors, notez que... Alors, j'ai appris ça en préparant, je ne savais pas, que Jacques Callot a bénéficié d'une amélioration technique. C'est qu'à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, on met au point une nouvelle technique de l'eau forte avec un vernis beaucoup plus dur qu'auparavant. Avant, le vernis qui a été utilisé sur les plaques de cuivre pour l'eau forte était un vernis qu'on appelait molle, un vernis assez mou. En gros, quand vous graviez dedans, ça ébarbait, ça faisait des traits un peu penteux, etc. Ça ne permettait pas les petites ciseaux, etc. Que le vernis dur qu'on utilise sur les ovales, qui est effectivement dur, hein, et qui là permet vraiment de faire des traits très fins, qu'on veut qu'ils soient fins, larges quand on veut qu'ils soient larges, et très précis, si vous voulez. Hein. Le vernis dur est un vernis vraiment qualitatif. Et justement, cette technique nouvelle apparaît au moment où Jacques Callot intègre son art, où il va voir en bénéficier, il va devenir vraiment le maître de l'eau forte en France, en première moitié du XVIIe. Alors, J'ai préparé, comme d'habitude, une série d'une 22aine, je crois, de gravures. Je les ai mis volontairement dans l'ordre chronologique. Donc, je n'ai pas fait le même coup qu'avec Rembrandt, où j'avais volontairement établi une sorte de foutoir que vous avez remis en ordre. Là, l'idée, ça va être de voir chronologiquement son œuvre, parce que je crois que le voir de manière chronologique, ça va nous permettre aussi de comprendre un peu comment son œuvre s'est développée. Il y aura pas mal de choses à dire au niveau des sujets. Donc, voilà, aujourd'hui, on va travailler d'une manière, je dirais, tout à fait traditionnelle. Alors, je vous montre la première œuvre que je soumets à votre sagacité. Quelque chose de très architecturé, oui. Très théâtral. Ça nous rappelle notre Saint-Antoine. Saint-Antoine rappelle ça.
Avec une grande symétrie.
Grande symétrie. Peut-être ça qui fait penser au théâtre, d'ailleurs. Alors, il y en a qui sont de dos, il y en a qui sont de face. Oui, oui, ceux-là, alors la photo n'est pas... j'ai pas toujours trouvé des photos merveilleuses, et là, en l'occurrence, elle n'est pas très bonne. Ils sont de face, ceux-là, hein, quand même. Oui, oui. Ouais, c'est pas... La photo n'est pas bonne, c'est très pixelisé, mais j'ai pas trouvé.
Le noir et blanc scande des yeux.
Le noir et blanc est...
Scandé, je ne sais pas si c'est le terme approprié, il y a noir, blanc...
Alors, il y a effectivement une volonté de contraste, presque un peu, j'allais presque dire, par rapport à ce qu'on a vu avant, presque un peu plus primaire. Vous avez vu comment, pour Saint-Antoine, il y avait ces espèces de nuances de noir et de gris hein, qui étaient remarquables. Hein. Là, c'est une œuvre plus précoce. Hein. On est dans quelque chose d'un peu plus, voilà, ça a brutalement contrasté. Hein. Les noirs, les gris, voilà. Hein. Donc, effectivement, c'est quelque chose de plus contrasté, de moins subtil que la tentation de Saint-Antoine. Alors, vous avez dit que ça avait un côté très théâtral. Qu'est-ce que ça vous inspire encore ?
Il a mis des textes sous les personnages.
Oui, il y a des textes, en tout cas des signes, des éléments. Ouais. Pourquoi, à votre avis ?
Mais ça fait référence à une indication externe, si je puis dire.
C'est-à-dire quelque chose qui était fait pour des gens à l'extérieur pour comprendre ?
Oui, directement, parce que alors, est-ce que la gravure est complète? Parce que souvent, elles sont coupées.
Là, elle est complète. Alors, le grand, c'est elle est complète.
Voilà,
non, mais les marges.
Oui, oui, non, mais alors, on peut se poser la question, parce qu'ici, on voit quelque chose qui pourrait faire penser, mais qui n'est pas au centre. Vous savez, quelquefois, effectivement, il y a une dédicace en bas, qui, quelquefois, a été coupée, et on voit que la partie supérieure de l'écu, par exemple, qui est... Là, il n'est pas au centre, et visiblement, c'est pas ça. Et là, je crois qu'elle est absolument complète. Hein. Mais il y a, ça nous ramène à qu'est-ce que c'est que ces indications
C'est une mise en scène, non?
Donc, ce serait véritablement ce que vous disiez, c'est théâtral. Mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que c'est pas un théâtre, c'est du théâtre. Voilà, ce serait le nom des personnages. En fait, on aurait là des éléments qui nous permettent de connaître les noms des personnages.
D'abord, les personnages du centre sont déguisés en orientaux.
Oui. Alors, en plus, il y a effectivement des personnages visiblement orientaux, oui. Ouais.
Une ambassade.
Ça se fait penser à une sorte d'ambassade orientalisante, oui.
On a un peu l'impression que les deuxièmes séries de bâtiments qui sont derrière les personnages, en fait, serait un décor.
Oui.
Ça ressemble à un décor.
Comme oui, donc on a l'impression ici vraiment même d'avoir la fin de la scène et le décor, la toile de fond, quoi, hein, qui est peinte. Donc effectivement, c'est non seulement théâtral, mais c'est une scène de théâtre. C'est une scène de théâtre avec effectivement la toile peinte, les pendrillons sur les côtés. Hein. C'est une scène de théâtre avec les personnages qui ont une sorte de code qui permet de les décrypter. Alors, qui permet de les décrypter, oui et non, parce que, vous voyez, il y a A, L, bon, je veux bien, S, L, non, d'accord, mais ça ne nous dit pas tout, quoi.
Donc, c'est la pièce qui est jouée.
Pardon ?
Il faut savoir la pièce qui est représentée.
Alors, effectivement, l'idée est de savoir la pièce qui est représentée, justement, par rapport à ça. Qu'est-ce serait votre remarque par rapport à ça ? Comment est-ce que cette œuvre-là peut nous permettre de connaître la pièce entière ? C'est un peu coton, quand même.
Oui.
Qu'est-ce que ça peut vous inspirer ?
Sauf s'il y a une
Pardon ?
Sauf s'il y a une
Ah, voilà. Ce que je sais que vous avez payé, c'est qu'en fait, cette pièce n'est qu'un élément d'une série. Parce qu'en fait, il y a d'autres gravures qui représentent d'autres scènes de la pièce. En fait, si vous voulez, cette gravure fait partie d'une série où vous avez également sur les autres pièces des éléments alors, qui vous permettent, au bout du compte, de mieux identifier les personnages, hein, d'une série qui permet effectivement d'identifier de quelle pièce il s'agit. En fait, je crois qu'il y a 5 gravures et pour 5 actes, tout simplement. Donc là, vous allez le voir dans un instant, je crois que c'est le 4e acte. Vous avez trouvé que la pièce était très orientale.
Ceux qui sont devant, oui.
Voilà. Et vous n'aviez pas tort, puisque la pièce dont le succès a sûrement été important à l'époque, elle est plus confidentielle aujourd'hui, s'appelait Il Solimano. Ce qui veut dire quoi ? Le Soliman. C'est Soliman, dit le magnifique. Là, c'est une pièce qui évoque l'histoire de Soliman. Qu'est-ce que vous auriez à dire d'autre ? Est-ce que j'ai absolument oublié, et oublié de noter aussi d'ailleurs, quel était l'auteur de la pièce en question. Alors l'auteur de la gravure, c'est Gallo, mais l'auteur de la pièce représentée, j'avoue que je ne le sais pas. Mais est-ce que vous pouvez deviner quelque chose par rapport à la gravure elle-même qui permettrait peut-être d'en savoir un peu plus sur la nature de cette pièce ? Vous avez vu que c'était très oriental, ça évoque Soliman le Magnifique, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ?
Si c'est une pièce de théâtre, il y a vraiment beaucoup de personnages.
Alors il y a des gens qui appartiennent à ce qu'on appelle ça des chœurs dans un opéra. Hein. Il y a les figurants, si j'ose dire, et puis il y a au centre les personnages principaux. L'architecture ne vous suggère pas quelque chose ? Pardon ?
Florence.
Donc c'est une architecture que vous trouvez assez florentine. Donc une architecture plutôt méridionale, on a parlé de Florence. Ouais.
L'Italie, oui, peut-être, mais Florence.
Italie peut-être, Florence peut-être.
Bien. Si c'est Soliman, ça serait pas toi.
Soliman, c'est. Bah oui, Soliman, c'est un grand, c'est le grand turc. Le turc en Italie. Comme dirait l'autre.
Mais il y a.
Non. Voilà, seulement en voyage, mais vous savez, ça ne gêne pas forcément les gens. Hein. Enfin, le théâtre du temps, de représenter des scènes tirées d'histoire orientale dans des décors vaguement orientalisants, mais surtout très occidentaux. Hein. Voilà, donc après tout, vous avez là-bas dans le fond un arc un peu bizarre qui peut faire oriental. Voilà, donc on peut se voir transporté à Constantinople, alors qu'on n'est en fait pas dans une vie occidentale. Alors, je vais quand même vous montrer la légende correspondante. Voilà. C'est donc Il Solimano, l'acte 4. On est assez tôt dans la carrière de Gallo. Alors, ce qui est intéressant, et que vous avez deviné, c'est que ça se situe effectivement à Florence. Il se trouve que Jacques Gallo a été formé, alors qu'il avait une douzaine d'années, hein, en Italie, à Rome, mais qu'après il est allé à Florence, et il a été pendant une douzaine d'années, j'ai même les dates quelque part, hein, à Florence même, au service du comte de Médicis, comte 2, si ma mémoire est bonne. Hein. Voilà, il a été à Florence de 1612 à 1621. Hein. Donc là, on est dans cette période où il travaille pour le grand-duc de Toscane, pour le maître de Florence, dont l'épouse n'est pas que Christine de Lorraine, d'ailleurs. Pour un Lorrain, voilà, on peut comprendre. Vous connaissez comme ça d'autres artistes qui vont s'installer longuement ou moins longuement en Italie et qui viennent de France ?
Poussin.
Sans doute le plus célèbre d'entre eux. Vous en connaissez d'autres ? Des artistes importants du XVIIe siècle français, enfin nés en France, et qui vont passer une grande partie de leur carrière en Italie. Je pense à Claude Gelée. Oui. Vous savez, on l'appelle le Lorrain. Oui, lui aussi était Lorrain, hein, mais il s'appelait Claude Gelée. Il a passé une grande partie de sa vie en Italie, et c'est les Italiens qui l'ont appelé le Lorrain, parce que, bon, les Italiens, Claude Gelée, c'est pas compliqué, il venait de Lorraine, on l'appelait le Lorrain. Il y en a d'autres, je pense à Simon Vouet, par exemple, qui a aussi passé un peu de sa, du début de sa carrière en Italie. Bref, on a comme ça des quantités de peintres hein, qui s'installent plus ou moins longuement en Italie. Ils ont beaucoup de peintres, s'ils ne s'y installent pas, beaucoup de peintres français vont aller en Italie. L'Italie est, si vous voulez, la référence. Hein, c'est là où on fait ce qu'on appellera plus tard le grand tour. Bien, en tout cas, voilà une œuvre de Jacques Callot. Regardons-en une autre.
Un personnage de théâtre,
mais encore. La Commedia dell'arte. Oui. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire sur cette gravure ? Pardon, derrière ?
C'est le même genre de paysage que tout à l'heure.
Même genre de paysage que tout à l'heure, derrière, c'est-à-dire ?
Un décor.
Voilà, à nouveau un décor. Vous avez effectivement une scène avec, un peu comme tout à l'heure, effectivement, un épandrillon. Alors, on imagine derrière le rideau de fond de scène. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a encore qui vraiment, alors là, exprime l'étude du théâtre hein.
Il y a le public.
Devant, vous avez le public. C'est-à-dire que là, vous avez le public, debout, bien sûr, hein, qui regarde la scène théâtrale qui a lieu derrière, et vous voyez ici le décor. Il y a un autre élément assez amusant là-dedans, qui montre effectivement que ce personnage est un personnage de la Commedia dell'arte et que, dans le fond, ben, voilà, on regarde le théâtriste qui... Qu'est-ce que vous pouvez voir ?
On dirait qu'il y a le même personnage sous la...
Voilà.
Sous son épée.
C'est ça. C'est-à-dire que le personnage qui est là, c'est lui. Hein, c'est comme si on avait pris un personnage de la scène pour en mettre en avant. Il s'illustre de l'arrière. Alors, qu'est-ce que vous auriez là aussi à dire par rapport, par exemple, à ce qu'on a vu juste précédemment concernant cette gravure ? Il y a un élément important qu'on a dit tout à l'heure concernant la gravure figurant un des actes du soliment. Là, qu'est-ce que vous auriez à dire ?
Il y a plus de dégradés dans les grèves.
Oui, alors ça c'est vrai. On sent là une œuvre un peu plus, un peu plus maturée, je dirais.
Je me souviens bien, il a fait d'autres gravures sur les comédiens.
Absolument. Donc ce que vous avez là n'est qu'une gravure d'une série. Ça, c'est très important de le dire aussi. Hein. Il arrive que les graveurs, et notamment les graveurs de gravures originales, comme Jacques Callot, hein, fassent une gravure, la Tentation Saint-Antoine. Il n'en a qu'une. Il a fait deux Tentations Saint-Antoine, mais deux complètement différentes. Et qui ne répond pas, ne se suivent pas, si vous voulez. Un graveur peut faire une gravure, point à la ligne, bon, mais il peut faire aussi des séries de gravures. Par exemple, pour cette série-là, si on est bonne, ma mémoire est bonne, il y en a trois. Alors, on va voir d'autres choses après, mais là, il y a trois de ces personnages. Ça vous dit quelque chose par rapport à ce qu'on a vu précédemment, quand même ? Il y a quand même un point commun entre ce que je viens de vous montrer et ça. Pardon ?
C'est lié au théâtre.
C'est lié au théâtre. C'est le théâtre, Hein. Et pour quelle raison ?
Pour vendre les œufs, non ?
C'était des commandes.
Alors, oui. Alors, c'est un peu des commandes, mais quel est son mécène ? C'est Comte de Médicis. Donc, si vous voulez, la ville de Florence, à cette époque, est une ville qui est évidemment très, très en vue, comme elle l'était au siècle précédent. Hein. On sort de la Renaissance, hein. Et donc, si vous voulez, la cour des Médicis, une cour assez brillante, où on donne des spectacles, et où donc Jacques Callot est là pour, quelque part, faire le compte-rendu, entre guillemets, de ces spectacles-là. Hein. Vous voyez, il est un des protégés, un des artistes protégés de Comte de Médicis, et donc, il produit des choses qui évoquent le caractère superbe, n'est-ce pas, de la cour. Hein. Voilà. Donc là, Hugo, c'est le capitaine ou l'amoureux, un jeune premier, un peu comme ça. Hein, voilà. Et qui, évidemment, est présenté devant et derrière. Oui ?
Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il est présenté en contre-plongée.
Un petit peu, oui. Ben, peut-être justement pour suggérer cette idée théâtrale.
Et sur la scène.
Les comédiens, on les voit toujours en hauteur. Alors, on va regarder une autre diapo. Même série ?
Non, peut-être pas, mais en fait, toujours des
comédiens.
C'est toujours des comédiens.
Des comédiens ? Des personnages de
contes,
de légendes.
D'histoire, oui.
Ouais. Des espèces de figures sorties de contes populaires, peut-être. Il y a d'autres solutions, d'autres possibilités.
Combat, c'est
des
bizarreries,
quand même. Des bizarreries, des personnages étranges, oui. Alors, il est vrai que souvent, on a vu dans ces personnages des figures de la comédie dell'arte. Ce n'est pas tout à fait le cas.
Non, parce
que... Ces figures de la comédie dell'arte, elles sont très typées. Hein, oui, voilà, hein. On a effectivement le Jeune Premier, on vient de le voir, il y a Pantalon, il y a... Bon, voilà. Là, on est devant un peu autre chose. Ce genre de personnages que vous voyez là, qui font des pitreries, hein, qui sont accoutrés de vêtements impossibles. Hein. À votre avis, c'est plutôt quel genre de figure ?
De carnaval ?
Oui.
Des caricatures.
Alors, caricatures ?
C'est pas vraiment, parce que ça représente...
Alors, peut-être un peu aussi, mais il s'agit effectivement d'outrer des caractères. Hein. Mais... À votre avis, ce genre de figure se produit où ?
Dans la rue.
Dans la rue. Et mais encore ?
C'est Florence dans la rue.
C'est Florence dans la rue, c'est-à-dire que là, on n'est pas en train de regarder un beau spectacle avec Laurent de, enfin, ou Combe de Médicis. Hein. On n'est pas dans une belle salle de théâtre avec des beaux pendrillons et une toile peinte dans le fond. Hein.
Même plutôt à la campagne.
Alors, c'est peut-être assez rustique. Alors, regardez les maisons dans le fond. On n'est pas à côté du Palazzo Vecchio. Hein. C'est plus rustique. Hein. Et donc, ce genre de figure se donnait où ?
Place de marché.
Oui, place de marché, sur les foires. Enfin, c'est une espèce de battleur, si vous voulez. Hein. Alors, ce sont des battleurs qui ont un peu comme les personnages de la comédie dell'arte et qui ont aussi leurs règles. Sauf que ce n'est pas des personnages de la comédie dell'arte. C'est de ces figures qui étaient, vous savez, des contorsionnistes, des équilibristes, des chanteurs, tout, qui sonnaient sur les foires et qui mettaient un petit bout de tréteau dans un coin, ou même pas, hein, et qui faisaient des pitreries un peu caricaturales, effectivement. Hein. Alors, Jacques Callot a fait toute une série, et là, il y en a une vingtaine, peut-être, hein, de petites gravures grandes comme ça, hein, qui sont terribles, hein, c'est tout petit. Hein. C'est pas comme notre Saint-Antoine, hein, qui est grand comme ça. Hein. Là, c'est des petits trucs comme ça, hein, et qui sont donc des petites figures comme ça, c'est rare. Très marrant, hein, où il y a des personnages qui font les andouilles, quoi. Enfin, oui. Voilà. Alors là, c'est Gian Fritello, je suis incapable de rien en dire, et Chiolo, en tout cas, qui font les imbéciles. Hein. Voilà. Donc là, c'est un peu, si vous voulez, le contrepoint de ce qu'on a vu avant. Avant, c'était le théâtre chic, même si un peu traditionnellement pittoresque. Hein, mais là, on est dans le théâtre de rue, quoi. C'est Chalon dans la rue.
Il y a plus de monde.
Oui, oui. Et vous voyez toujours hein, comment Jacques Callot est assez marrant parce qu'il met souvent des personnages sur le devant, mais à l'arrière, il y a un écho. Il y a toujours quelque chose qui se passe.
C'en est un autre, non ?
C'en est un peu un autre. C'est pas la même série. C'est une autre série. Où cette fois, et là aussi ça montre l'art de Jacques Callot, hein, qui est capable de décliner. Hein. Il a fait des grandes scènes théâtrales avec plein de gens, plein de choses. Il fait des scènes où il prend un personnage comme il est de l'arté, mais il monte derrière les spectateurs, etc. Après, il va dans la rue, il nous montre deux andouilles qui sont en train de faire les pitres. Et là, paf, il en prend un seul, hein, dans une autre série. Et là aussi, cette série-là, il y en a une vingtaine à peu près. Ce sont des petites gravures comme ça, absolument délicieuses. Hein, qui a besoin de ces personnages. Oui, c'est vraiment... c'est très, très beau. Là, je vous le grandis beaucoup, mais c'est tout petit. Hein. C'est très marrant. Ça, c'est une série qu'on appelle la série des Gobbies. Les Gobbies, c'est des espèces de personnages un peu difformes, qui ont toujours un gros ventre, un dos un peu... voilà, enfin, ils sont un peu bossus, qui... Voilà. Lui, en plus, il a une espèce de masque. Enfin, vous voyez, quoi. C'est les personnages. Qu'est-ce qui intéresse Callot, finalement, dans ce genre de gravure ? Quel est le but ?
Bah, montrer la vie, la vie de l'île.
Oui, une certaine...
C'est
forme de société.
L'art même, qu'elle soit au théâtre ou dans la rue, que Rome, que Florence est une ville.
Oui, effectivement.
Toujours présent.
Oui, effectivement. C'est Callot est quelqu'un qui, on le voit, hein, ne se contente pas de rester, de demeurer dans les murailles de la cour, on va dire. Hein. C'est quelqu'un qui va dans la rue regarder de près ce qui s'y passe. Et justement, dans la rue, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui le séduit? Voilà, c'est le pittoresque. Je crois que c'est ça le grand mot. Hein. C'est le pittoresque. Le pittoresque des personnages, des attitudes. Ce personnage qui a un chapeau un peu rongé, voilà, qui a connu des jours meilleurs. Ce gobi, c'est, enfin, gobo. Voilà, ça intéresse beaucoup, beaucoup ces dimensions pittoresques qui a fasciné, hein, de façon, beaucoup d'artistes. Hein. Quelque chose qui a été extrêmement développé par Callot. Il a fait comme ça des quantités de petites gravures, souvent figurant des thèmes pittoresques. Voilà.
Ça devait bien se vendre, peut-être qu'il était des petites gravures.
Voilà, absolument. Et exactement, c'est pas cher, ça se vend bien. Quand vous êtes un amateur anglais qui vient faire son tour d'Italie au XVIIe siècle, ou encore au XVIIIe, hein, et que vous voulez ramener un petit souvenir, une gravure comme ça, c'est bien, c'est pas grand, c'est pas lourd, pas compliqué, c'est pas forcément très cher. C'est chouette. Et ça vous évoque le pittoresque des rues d'Italie. Vous avez toujours trois gobies dans un coin qui sont en train de faire de la musique. Quoi. Donc c'est chouette. C'est le pittoresque. Voilà.
Ah, voilà.
Alors qu'est-ce qu'on voit là? Eh oui, on voit le Palazzo Vecchio. Donc on est vraiment à Florence. Ah, on ne peut pas être ailleurs. Comment s'appelle la place devant le Palazzo Vecchio?
Place de la Seigneurie.
Place de la Seigneurie, absolument. Place de la
Seigneurie. Avec la loge.
Ah voilà, avec un droit de la fameuse loge. Hein. Fameuse pourquoi d'ailleurs?
Parce qu'il y a une statue de Michel-Ange.
Eh oui, laquelle?
Le
David. Hein. Enfin, il y avait, parce que l'original maintenant est au Bargello, la copie est donc là. Puis il y a une autre œuvre célèbre d'ailleurs. Il y a le Percé de Benvenuto Cellini aussi. Donc c'est une place vraiment très 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 importante. Alors, qu'est-ce que vous notez là aussi dans cette représentation de la place à la Seigneurie, un lieu fameux s'il en est, hyper florentin?
Il y a un personnage au premier plan qui montre la scène
ouais.
Dans la scène.
Toujours un personnage principal.
Voilà, effectivement, il y a toujours un personnage principal et derrière, ça, c'est voilà. Une chose qu'il a beaucoup travaillé. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec notre capitaine, hein, vous vous rappelez. Hein. Et alors là, le côté amusant, le personnage qui est de dos et qui nous montre la scène à voir, alors qui n'est pas tout à fait un défilé du 14 juillet, hein, même si ça y ressemble. Mais effectivement, vous voyez une sorte de défilé, effectivement, sur la place de la.
Il y a un regroupement central. Pourquoi?
Oui, ben, je ne sais pas.
On dirait qu'il y a une course de chevaux.
C'est peut-être ça. Parce qu'il y a. Oui, c'est peut-être quelque chose.
La sienne.
Oui, c'est possible. Le palio. Ouais. Voilà, en tout cas, effectivement, une œuvre là aussi assez typique hein, au niveau de la manière d'étager les personnes, avec des détails délicieux. Vous voyez un petit chien ici, par exemple. Hein. Vous voyez quand même, parce que là aussi, hein, c'est grand comme ça. Hein. Bon, là, c'est hyper agrandi. Hein. Vous voyez quand même la façon dont c'est fait. Hein. C'est assez stupéfiant. Oui, il se passe des choses pas très correctes au premier plan entre les chiens. Hein,
voilà. C'est la nature.
C'est la nature. Hein. Mais vous voyez hein, l'incroyable prestance hein, de ce graveur qui est capable avec trois traits et c'est grand comme ça hein, de faire ces petites figures qui sont tellement.
Voilà, c'est.
Pardon. Ah oui, oui. Ben, pour ce genre de petits détails-là, je ne vois pas très bien comment faire autrement. Hein. Ou alors, il faut avoir de très bons yeux. Ça. Voilà. Alors ça, c'est une série qui s'appelle Les Caprices.
Comme chez Goya.
Oui. Alors, le mot caprice est un mot un petit peu valise qui évoque volontiers, si vous voulez, non pas l'idée du caprice actuel... un petit garçon lui dit fait un caprice qu'on lui a pas donné le bonbon qu'elle voulait. Hein. Caprice, c'est plutôt une sorte de rassemblement d'éléments avec des personnages, des monuments inventés ou non, des personnages réels ou pas, mais qui, s'assemblant sur une même œuvre, crée une sorte d'atmosphère un peu singulière, festivo, pittoresque, si vous voulez.
Et c'est un terme italien.
Oui,
Capricci. On n'a pas tout à fait l'équivalent.
Non, exactement. Quand on dit caprice en français, on pense à ça, la petite fille qui fait une crise, ou le petit garçon. Mais en italien, c'est autre chose, c'est ça, une espèce de vue, encore une fois, qui mêle le pittoresque, le festif au fantastique, avec des tas de personnages de tous sens. Et donc, il a fait là aussi toute une série de caprices, où il y en a une bonne vingtaine, je crois. Alors, voilà.
C'est un champ de foire.
Oui,
une potence.
Ah, oui.
Une potence
aussi.
Ah, oui.
Ah, oui. Sur une foire, on vient qu'il y a un petit pendu quelque part. Bon, il est pendu par les mains, je ne sais pas si.
Oui, par les mains d'enjeu.
Ouais. C'est une grande gravure.
Une grande gravure. Hein, ce que vous voyez là, c'est une très grande gravure. D'ailleurs, vous voyez, elle est pliée au milieu, la feuille est si grande. Voilà, c'est une grande gravure. Hein, ça fait à peu près ça. Hein. C'est une grande gravure. C'est un peu comme notre Saint-Antoine de tout à l'heure. Hein. C'est une gravure de grande dimension. Hein. Donc là aussi, c'est extraordinairement virtuose. Quand même.
Les détails.
Ah, c'est fou.
Il y a une scène à droite, on dirait qu'il y a des personnages qui jouent.
Oui. On retrouve nos personnages de tout à l'heure.
Ouais. Hein.
En regardant bien, on trouverait des gobies, hein, sûrement. Hein.
Ouais. La carriole, les gamins traînés sur la carriole.
Ah oui, c'est en fait, c'est extravagant. Hein. C'est une gravure. Vous voyez, quantité de personnages. Évidemment, là, il y a un infirme qu'on traîne sur une espèce de carriole. Là, il y a des tas de petits chiens. Que sais-je encore ? Mais tout est comme ça jusqu'au fond. C'est une. Alors, et vous voyez bien là, la dédicace. Hein.
Ah oui,
comme le magnifique. Donc, vous voyez, Callot est largement appointé par la cour. Il faut quelquefois envoyer l'ascenseur. Hein, donc, la dédicace est en l'honneur de Combes le Magnifique. Hein. Techniquement, vous auriez à dire quoi, là aussi ?
La perspective.
Eh oui. On retrouve ce qu'on a vu pour le Saint-Antoine tout à l'heure. Hein, cet extraordinaire brio qui, du noir, noir du premier plan, va vers des grisés très légers du fond. Hein, encore une fois, la technique a joué en sa faveur. Enfin, au-delà de ça, il faut quand même être capable de le faire. On est là chez un grand maître de la gravure.
Même les nuages, ils sont drôlement bien
dessinés. Ah oui, c'est étonnant. Oui, pardon, vous
dites. Les collines de Toscane, au fond.
Oui, 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 tout à fait. Oui, parce que cette foire, c'est où ?
L'Imbrunetta.
Pardon ?
À l'Imbrunetta, c'est un village de environ.
Bravo. Effectivement, c'est un village qui a une douzaine de kilomètres de Florence, où a lieu, encore d'ailleurs, régulièrement, chaque année, une foire, vous savez peut-être les dates d'ailleurs, mais c'est voilà, à date fixe. C'est une foire extrêmement célèbre. Et, alors là aussi, qu'est-ce qui pousse notre canot à aller là et à faire ça ?
À montrer la richesse de...
Alors, il y a cette dimension-là, hein. Même si je ne suis pas sûr que ce soit une foire où s'échangent des étoffes précieuses et de l'orfèvrerie de grand luxe. Hein.
Non. Mais c'est aller au niveau du peuple.
C'est toujours ça. C'est évidemment toujours ça. C'est encore cette recherche du pittoresque. Quoi. Parce que là, effectivement, on voit le paysage assez particulier, hein, marqué avec cette construction religieuse que vous voyez au centre, là. C'est-à-dire que le paysage, les bâtiments, comme ce qui s'y passe, tout ça est d'une accumulation pittoresque. Aujourd'hui, si vous voulez, ce genre de choses, on en a tellement vu que voilà. Hein, mais à l'époque, espèce de pittoresque accumulé va beaucoup marquer quand même. Hein. Ça donnera des choses après. Vous savez, au XVIIIe siècle, par exemple, des gens en Italie, hein, comme Canaletto, etc., font la même chose avec les canaux de Venise. Enfin, une espèce de fouille pittoresque qui s'installe partout avec des petits détails. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué et que Callot a amené vraiment à un niveau très, très fort. Donc vous voyez qu'il est capable de faire un petit gobi tout seul sur une planche comme ça, hein, et puis une grande planche qui monte l'Imbrunetta sur presque un mètre de large. Et ça. Un personnage de théâtre. Pas sûr.
Un militaire.
Si c'est pas un militaire, on peut dire que c'est quoi?
Un noble,
oui. Comment est-ce qu'on appellerait ce genre de personnage éventuellement noble avec son épée? C'est un gentilhomme. C'est un gentilhomme. Donc on est devant un gentilhomme, ok.
C'est toujours pareil, personnage central et puis plein de
choses. Ah oui, décidément, vous voyez, c'est un topoche chez lui. Hein. Le personnage central est derrière une sorte de paysage plus ou moins urbain ou rural.
Il y a un pont, oui.
Oui, on voit, on sent qu'on est. Alors. Ah oui. Alors là, c'est quel univers qui nous est présenté? Je vous rappelle qu'on a vu des comédiens, des saltimbanques, dirons-nous. Voilà. Là, on sort effectivement. Hein, on est dans une représentation très différente. Hein. Vous voyez qu'il y a finalement une sorte, presque une volonté d'inventaire social, hein, qui est assez curieux. Simplement, ce personnage, il y a peut-être une autre différence aussi par rapport à ceux qu'on a vus précédemment.
Est-ce que c'est un portrait?
Alors, à votre avis?
Non. C'est un Lorrain.
Pardon?
C'est pas un Lorrain, par
exemple. Ah! Portrait, qu'est-ce que vous en pensez d'abord?
Il fait plus français que ce qu'on a vu.
Eh oui, le personnage que vous avez là, c'est pas forcément un Italien.
Non.
Il a l'air plutôt français. D'ailleurs, on a bien l'impression que cette œuvre, effectivement, a été faite à un moment où Callot va quitter Florence et va revenir en France. Parce que en 1621, il quitte Florence et il vient s'installer à Nancy. Alors, il y a un certain nombre de gravures qui ont été faites un peu entre l'un et l'autre. Hein. Par exemple, les Gobies que je vous ai montrées, hein, je vous ai montré le petit Gobie Venise, visiblement, ça a été fait en Italie, mais publié après son retour en Lorraine. Hein. Parce qu'évidemment, ben, quelquefois, il faut tuiler un peu les choses. Quoi, hein. Et là, c'est peut-être pareil. C'est-à-dire, c'est un personnage qui montre plutôt un personnage de la noblesse lorraine, hein, mais il y a encore des réminiscences italiennes, notamment derrière le paysage. Je pense à ce bâtiment qui est là, qui fait un peu Palazzo Vecchio Monti. Donc il y a des moments où on voit un peu l'un dans l'autre. En tout cas, on est devant un personnage de la noblesse. Portrait, vous disiez, peut-être pas trop. Si vous voulez, c'est plus un type qu'un portrait. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et finalement, Callot, c'est quelqu'un qui fait le catalogue, qui fait la typologie de la, j'allais dire, de Florence, tout comme il le fait ensuite de la Lorraine. Hein.
On est en hiver.
Oui, il a une espèce de cape. Ouais. Et il a fait, là aussi, toute une série. Hein. Là, vous avez ce gentilhomme, hein, mais vous avez une quinzaine de gravures, dont des dames, d'ailleurs. Hein, qui,
parce que jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de dames.
Non, je n'ai pas rencontré beaucoup de dames. Ouais. Mais je n'avais pas de bonnes photos des dames. Et je n'allais pas vous montrer les mauvaises photos des dames.
Ah oui, un mendiant.
Voilà. Ça, c'est une gravure célèbre. Hein. Je pense que vous l'avez déjà vue. J'ai voulu vous la passer parce qu'elle est célébrissime. Hein. Ouais. Voilà, on a un mendiant. Et là, alors là, ça fait partie d'une autre série qu'il a intitulée comment, d'ailleurs?
Les malheurs de la guerre.
Alors, c'est pas les malheurs de la guerre.
Ah. Parce que les malheurs de la guerre, c'est Koya. Hein.
Tout comme il a présenté avant des personnages, une série qu'il appelle la noblesse. Là, il a fait une série à peu près aussi nombreuse que la noblesse, hein, qui s'appelle comment, à votre avis? Pardon? Alors, c'est pas le peuple, mais c'est le niveau inférieur du peuple.
La misère, ouais. Pauvre.
Alors, ça pourrait être les pauvres, ça s'appelle les gueux.
Les
gueux. Les gueux. Et donc, il y a ce personnage qui est un mendiant en jambes de bois. Donc, enfin, je pense que ça, vous le connaissez. Alors, pareil, c'est des gravures assez petites, hein, c'est grand comme ça. Hein. Vous voyez d'ailleurs, c'est très très agrandi, mais je pense que vous voyez aussi l'incroyable maîtrise, hein, du travail de Callot. Donc, il continue son catalogue, et il a montré des gens de la haute, là il montre des gens de la basse, si j'ose dire.
Et là, il n'y a pas de décor derrière.
Non. Mais il y a toujours le côté monumental de la figure qui apparaît. Et ça.
enfants,
errants, par pays étrangers.
Les femmes avec des enfants sur le dos.
Oui.
Les bohémiens.
Les bohémiens. C'est une gravure qui appartient à une série qui représente des bohémiens. Et donc là, vous avez des bohémiens qui passent. Qu'est-ce que vous diriez, là aussi, aussi bien de la présentation que du sujet, que la manière de le traiter?
C'est beaucoup plus clair que ce que nous avons vu dans d'autres... quand il fait ses paysages ou ses scènes, il y a toujours un peu de noir et après du clair. Et là, c'est plus clair que son...
Oui, c'est-à-dire une chose qu'on a vue dans le gueux précédent, et qui est... c'est-à-dire que là, l'arrière-plan est beaucoup... Alors peut-être que la photo l'a clarifié un peu les choses, hein. C'est peut-être un peu plus loin, mais en tout cas, ce que vous remarquez, et qui est juste, hein, c'est que, alors certes, il y a un arrière-plan quand même, hein. Alors, hein, vous devinez, une espèce de paysage dans le fond des personnages, mais quand même, hein, le gros des personnages se détache sur un fond blanc. Vous l'avez remarqué pour le gueux tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une manière peut-être de monumentaliser davantage encore. Hein. C'est du pittoresque, mais le pittoresque est monte en gamme, si j'ose dire. Enfin, vous voyez, il y a plutôt que d'avoir une espèce de fouillis de tas de choses, là, vraiment, l'espèce de frise, hein, de personnage a beaucoup marqué les esprits, justement par ce côté, seul, si vous voulez. Il y a pas de, tout ça n'est pas perdu dans un décor. Voilà.
J'ai remarqué une question. Dans toutes ces gravures, on voit sa signature, alors
oui.
Que souvent, à cette époque-là, il n'y avait pas de signature.
Alors, c'est le moment où ça commence vraiment. C'est-à-dire que, en fait, pour les signatures, le moment bascule décisif, ça va être la Renaissance. Quoi, hein. En fait, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, vous le savez, hein, généralement, on ne signe pas, ou exceptionnellement. À la Renaissance, on va commencer beaucoup plus à voir les signatures arriver. Et à partir du XVIIe siècle, ça va devenir, sinon une habitude, du moins quelque chose de vraiment fréquent. Hein. Et Callot, effectivement, va de plus en plus signer, ce n'est pas le cas partout, et pas forcément dès le départ, mais il signe souvent de plus en plus ses œuvres, effectivement. Alors, les bohémiens, il en a fait plusieurs. Hein. Ça s'appelle « Les bohémiens en marche », la série, il y a trois gravures, si je ne m'abuse. Ça, c'est l'avant-garde. Alors, il y a l'avant-garde, l'arrière-garde et puis le milieu. Voilà. Ça, c'est le début. Pourquoi les bohémiens ont tant intéressent, là, à votre avis, notre Callot ?
Parce qu'ils sont pittoresques, juste.
Voilà. Parce qu'ils sont pittoresques. Et les bohémiens, on les convoque notamment pour quelle raison ?
Bah, des festivités.
Oui.
Des foires.
Oui, ils traînent souvent sur les foires, on les voit, etc. Oui.
Théâtre, des petits travaux.
Oui. Il y a notamment un de ces travaux qui intéresse beaucoup au XVIIe. Pardon ?
Mais la
vannerie. Oui. Oui, il y a plein de travaux de ce genre, d'artisanat, je dirais. Hein. Oui. Mais il y a une fonction qui est souvent... Pardon ? La bonne aventure. On voit très très souvent au XVIIe siècle, pensez à Caravage par exemple, hein, pensez à Georges de la Tour, hein, Georges de la Tour, un autre Lorrain d'ailleurs, hein, on voit très souvent des gens qui se font tirer la bonne aventure, hein, qui montrent leurs mains et on leur lit ni la main. Alors vous savez que c'est. Et donc ce sont toujours des bohémiens, surtout des bohémiennes qui font ça. Hein, et c'est souvent d'ailleurs l'occasion, c'est ce qui a, j'allais dire, un peu installé la figure plus ou moins légendaire du bohémien, hein, l'occasion de scènes un peu, justement, pittoresques et amusantes, même si c'est souvent en dépend celui qui se fait tirer l'hymne de la main. Hein. Souvent, on voit en effet un beau personnage qui se fait tirer, qui se fait regarder l'hymne de la main, et en même temps, au moment où il regarde la bohémienne qui est en train de lire, il y a quelqu'un qui lui pique sa bourse. Enfin, je crois que c'est chez Georges de la Tour qu'il y a même quelqu'un qui pique la bourse de la bohémienne qui est en train de piquer la bourse de celui-là. Donc, si vous voulez, c'est la poupée gigogne. Et ça, c'est très très souvent le cas. Donc les bohémiens sont dotés de toute cette vision-là. Hein. Ils sont pittoresques parmi les pittoresques.
Un berger.
C'est un mouton sous les arbres.
On en dirait des sangliers.
Des cochons.
Ah bon, entendez-vous. Il y a effectivement un berger qui garde des cochons. Donc c'est pas des sangliers, c'est des cochons. C'est des sangliers domestiques. Effectivement, ça représente un épisode fameux. Voilà, l'épisode de l'enfant prodigue. Vous nous rappelez ce que c'est ?
C'est un jeune adolescent qui a pris sa liberté et qui est parti et qui a consommé toute la petite fortune qu'il avait à ce moment-là et qui a fini par garder les moutons et les cochons. Et finalement, il a imploré ensuite le pardon de son père au grand dam de son frère aîné qui lui n'avait pas la même trajectoire.
C'est ça. Vous nous dites aussi d'où c'est tiré, mais ça, chacun le sait.
C'est plutôt de la Bible que ça, tout à fait. Moi, je suis du Nouveau Testament.
Voilà, absolument. Voilà. Donc, c'est là un épisode de la vie de l'enfant prodigue. Alors, Callot a fait toute une série de gravures autour de la vie de l'enfant prodigue, dont celle que vous voyez là. Donc, vous voyez que l'idée de la série est un aimant très, très important. Hein. C'est-à-dire que souvent, on acquiert comme ça des séries entières. La suite de l'enfant prodigue, il y a une quinzaine de gravures quand même, hein, qui vraiment évoquent toute l'histoire que vous nous avez résumée. Hein. Là, c'est effectivement le moment où il garde les porcs, où il est tombé au bout du bout, si j'ose dire, où il implore la miséricorde divine pour essayer de remonter en grâce, pourrait-on dire. Mais ça,
c'est une scène de village.
Une scène de village, oui.
Une noce.
Il y a des gens qui dansent.
On danse, il y a une fête.
Il y a des chevaux aussi.
Ouais.
Il faudrait qu'il y ait une file d'attente.
Il y a des canons. Ben, il y a, oui, quelque chose qui est de l'ordre d'une procession, peut-être. Et quoi d'autre ?
Un arbre.
Un gros arbre, oui. Il y a des personnages dans l'arbre. Vous en voyez un là, par exemple. Vous en voyez là. Ouais, il y a des personnages dans l'arbre.
Il y en a qui grimpent.
Oui.
Il y en a à droite.
Là.
Voilà. C'est pour mieux voir le spectacle.
Non, ils jouent de la musique.
Il joue de la musique.
Il y en a un qui joue de la trompette.
Il joue de la musique, oui. Alors, qu'est-ce que ça vous suggère, tout ça ?
C'est la fête au village.
Une fête au village, peut-être une fête particulière.
Un mariage ?
Ah, ça peut faire penser à un mariage, mais...
C'est pas ça. Il y a une ronde ?
Oui.
Oui, il y a des gens qui font la ronde.
Il y a effectivement une sorte de procession.
Procession, il y a des gens qui dansent en rond.
C'est l'érogation.
Une fête religieuse.
C'est une fête à fondement religieux, je dirais. Il y en a un élément dans le cortège qui peut-être vous frappe. Pardon ? Ah, l'idée du carême. Ça pourrait, mais...
Il y a des gens à cheval ?
Il y a des gens à cheval, enfin il y a. Si, effectivement.
Hein. Devant les trois, là.
Un personnage qui regarde plus ou moins ce genre de cortège.
Il y a une dame, il y a un monsieur avec un enfant.
Une dame qui porte un rameau et un peu plus qu'un rameau.
Ouais, bon.
Ah oui, un arbre.
Ouais, elle porte un petit arbre.
Ah.
Et voilà. C'est la fête de mai. Ce qu'on appelle le mai, d'ailleurs, souvent. Vous pouvez nous dire ce dont il s'agit, peut-être ?
Vous faites le renouveau.
C'est ça. En l'honneur de qui ?
Si c'est chrétien, c'est Marie.
Oui. C'est effectivement la fête de mai qui effectivement signale le printemps quelque part. Hein. Et une fête envers la Vierge Marie. Aujourd'hui, le 1er mai, c'est un peu autre chose. Voilà, c'est après la suite ou la place. Et qu'est-ce qui se passait au moment de la fête de mai ? Qu'on appelle souvent la fête de l'arbre de mai.
Il y avait des filles qui
se réunissaient
et qui tirer des rubans tout autour.
Marge, vous auriez donné votre témoignage. Donc effectivement, la fête de mai, c'était ça, c'est-à-dire que une jeune fille accompagnée d'autres jeunes filles passait dans la rue avec un arbre, un petit arbre, qui évoquait effectivement l'idée de la nature qui se réveille, etc. Tout ça en l'honneur de la Vierge, dans le mois qui lui est après tout consacré d'une certaine façon. Et l'idée était de recevoir toute une série de dons, d'offrandes, qui ensuite servaient à faire l'offrande générale à la Vierge Marie. Voilà. Donc c'est l'occasion d'une sorte de fête. On appelle ça la fête de l'arbre de mai. Mais voilà, c'est l'occasion d'une sorte de liesse populaire que vous voyez là. Donc ça, c'est effectivement ce qui est représenté, cet épisode, toujours ce goût du pittoresque. Alors là, un pittoresque lorrain, et plus du tout italien. Hein. Qu'est-ce que ça dit d'autre, cette gravure, par rapport à d'autres choses qu'on a vues, qui ne montraient pas ça autant, je crois. Vous avez frappé avec Rembrandt la semaine dernière.
Les paysages.
Eh oui, c'est le côté paysage. C'est-à-dire que là, vous avez un paysage, alors, villageois, mais un paysage quand même, hein, et qui justement, par rapport à Rembrandt la semaine dernière, nous... Enfin, confirme quoi ?
Le caractère rural.
Oui.
Les artistes, ils sortent, quoi.
Eh oui.
Ils ne travaillent plus que dans les...
C'est ça. Décidément, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a un Callot, comme Rembrandt, hein, qui sort de son atelier, qui représente non pas un village pittoresque, j'allais dire, de pacotille ou d'invention, hein, imaginaire, mais un vrai lieu, quoi. Ce qui est montré là, c'est pas... la fête de l'arbre de mai, c'est la fête de l'arbre de mai quelque part. C'est-à-dire qu'on a là une attitude, vous savez, la semaine dernière, on disait, des guillemets, hein, que c'était une attitude barbisonnienne, oui, hein, tout comme le barbison qui. Voilà.
Mais c'est vrai que l'arbre ressemble.
Voilà, ça fait vraiment penser à Daubigny, par exemple. Hein. Sauf qu'on est au XVIIe siècle avec Jacques Callot. Hein. Et alors, on connaît très bien le village, en plus, qui est le village où a lieu cette fête. Hein. C'est Xeuillé. Bon. Pas se trouver très loin de Nancy, je suppose. Hein. Donc, vous voyez, il s'agit bien là de montrer un pittoresque géographiquement placé. Enfin, voilà, on est vraiment dans une attitude de sortie de l'atelier, comme vous le disiez.
On a un peu l'impression aussi qu'on a un portrait d'arbre.
Oui.
Avec un décor autour.
Absolument. Oui. L'arbre est en tout cas. D'ailleurs, Rembrandt nous avait fait le même coup la semaine dernière. Dans les trois arbres, vous savez. Hein. Oui, effectivement, l'arbre, là, qui est un vieil arbre séculaire sur la place du village, hein, il est mis en valeur, mis en avant, c'est effectivement comme un portrait d'arbre. C'est superbe, d'ailleurs. Ça participe de la scène.
Il y en a qui jouent au boule.
Oui, il y en a qui jouent au boule.
Oui. Ah oui, c'est très, très, très marrant. Alors, ce que vous preniez pour un canon est en fait une sorte de charrette. Hein, sur lequel il y a un bonhomme qui est en train de dormir. Mais là aussi, on se perd, n'est-ce pas, dans les détails qui n'en finissent pas. C'est absolument incroyable. Et avec, là encore, on l'a pas redit, hein, mais cette incroyable capacité d'aller des noirs au gris, c'est vraiment virtuose.
Notre-Dame.
Ben ouais.
C'est tout de Notre-Dame.
Ah oui, au fond, là-bas.
Eh oui, on voit Paris, on voit le Louvre, vous avez raison.
Mais il
n'y
a pas
la
flèche.
Notre-Dame.
Ben non. Le décor n'était pas né. Non, mais c'est nouveau, là. C'est l'actualité.
Et puis, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ouais. Alors ça, vous connaissez ça.
Ça, c'est le
pont neuf. Et oui, cette tour que vous avez à droite, c'est quoi ?
La conciergerie ?
Non. Non, la conciergerie, elle serait près de Notre-Dame.
La tour de Nesle.
C'est la tour de Nesle, voilà. La tour de Nesle, vous savez, c'est cette tour qui appartient à l'ancienne enceinte de Philippe Auguste, qui n'existe plus aujourd'hui, hein. Et qui appartient, la Tournelle faisait partie d'ailleurs d'un bâtiment qui appartenait au roi, hein. Mais enfin qui au XVIIe siècle était un peu tombé en désuétude. Bon, la Tournelle, on en a bien littérairement, parce que c'est là que se passent des intrigues des rois maudits. Vous
savez. Voilà. Le Val des Ardents.
Je ne sais pas si c'est la Tour de l'Ardent.
Il y a encore un pendule là,
qui menait une inauguration.
C'est ça, voilà. Puisque c'était un lieu royal, mais un peu à l'écart. C'était un lieu pour les plaisirs royaux. Alors, votre pendu, c'est une lanterne, en fait. Hein. Il y en a qui voient des pendus partout. En tout cas, très belle vue. Vous voyez l'immeuble à Samaritaine, là, hein, qui était à l'époque sur le pont. Hein. Donc, une vue, effectivement. Alors, ça ne vous étonne pas qu'un Lorrain fasse une vue de Paris, comme ça?
Il est allé
effectivement à Paris, la preuve. Hein. Mais quand même. Oui, il a publié un certain nombre de ses gravures à Paris, mais il habite en Lorraine, donc voilà. Et puis surtout, qu'est-ce que vous suggérez à l'époque?
Il y a beaucoup d'échanges.
Il y a beaucoup d'échanges, mais... Oui.
C'est la guerre?
Ben oui, c'est la guerre. C'est la guerre de 30 ans, hein, qui est quand même une guerre qui... est un conflit à la fois entre le royaume de France et en gros les Pays-Bas, mais également avec la Lorraine. Hein. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que malgré ça, il peut y avoir des liens. On sait quelque chose aujourd'hui. Hein. Mais voilà, on malgré ce problème, enfin grave, hein, qui touche les relations entre la Lorraine et le royaume de France, la Lorraine étant un duché, hein, qui a une certaine autonomie, je dirais, eh bien, Callot va à Paris, fait des vues de la ville, et répond à des commandes, si vous voulez, faites au niveau de la capitale, enfin, ce qui est aujourd'hui la capitale. Et ça?
Une belle place.
Oui. Oui. Oui, intéressant ce que vous dites là, parce que on voit là que c'est une place qui, comme vous dites, reprend la symétrie qu'on a vue tout à fait au départ. Hein, je pense notamment au Soliman, vous vous rappelez. Hein. Sauf que là, évidemment, on est dans une salle de théâtre ou pas?
Non.
Mais il le représente à la manière de. Oui. Comme s'il théâtralisait la ville. Façon de théâtraliser le milieu urbain. Vous reconnaissez cette place?
Nancy.
À Nancy, et quelle place?
La Carrière.
Voilà. Alors, c'est pas, effectivement, c'est pas la place Stanislas, qui d'ailleurs n'est pas le bon goût d'exister encore. C'est donc la place de la Carrière, hein, qui est derrière la place Stanislas, qui est une très belle grande place, très, aujourd'hui un peu différente, avec une sorte de parc au milieu, quoi. Mais c'est la place de la Carrière, qui est la vieille place historique de la ville, hein. Et évidemment, vous avez bien remarqué qu'il la représente, mais en la théâtralisant, d'autant plus qu'il y a là, vous le voyez, des festivités. Je crois que c'est d'ailleurs la festivité digne de la bague, si ma mémoire est bonne. Vous savez, la bague, ça existe à Semur-en-Auxois ici encore, d'ailleurs, enfin, dans la région.
C'est quoi?
Oh, c'est une course où on court pour conquérir une bague, d'où le nom de course de la bague. Alors, c'est une course qui se fait à chevaux, je crois. Et qui fait que le vainqueur gagne une bague en or, un truc comme ça.
Ah bon?
Ouais. Et il y a ça aussi à Nancy. Alors, c'était évidemment l'occasion de festivités, tout comme à Semur aujourd'hui encore, il y a des tas de choses tout autour, d'où le fait que vous voyez des tas de gens, des acrobates, que sais-je encore. Hein. Finalement, ils transposent, c'est une transition presque italienne en Lorraine, sauf qu'en Lorraine, il se passe un peu la même chose qu'en Italie, sauf que c'est en Lorraine. Quoi. Voilà. Mais il y a aussi des battleurs, des gens qui, j'allais dire, accompagnent cette sorte de festivité un peu foireuse. Hein. La casse. Hein. Effectivement, on a un père et son fils. Alors là, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à d'autres œuvres que l'on a vues?
Tout
toujours le décor théâtral.
Oui, on a de nous. Alors là, effectivement, il y a une sorte de décor théâtral avec des rideaux. Ouais. Toujours le personnage devant avec la perspective derrière. Vous voyez, c'est un leitmotiv. C'est presque un topos.
C'est sa signature.
Ouais, oui, c'est, voilà, c'est quasi une signature.
Il a la même.
Lire la page d'un livre.
C'est vrai que ça fait penser à ça, d'autant qu'il y a du texte, mais en fait, non, c'est une gravure unique.
Il a la même attitude que le capitaine, avec la
c'est vrai.
Main tendue.
Oui, oui. Ah, avec une jambe en avant, l'autre oui, derrière, quand on se tient, quand on est bien.
Il y a le blason au sommet, qui doit être le blason du personnage central, qui présente sa progéniture.
Exact. Et ça veut dire que c'est quoi par rapport
c'est
à d'autres
hommes? C'est une lignée familiale.
Alors voilà, c'est effectivement une lignée familiale. Et qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux autres figures du même genre qu'on a vues? Vous avez prononcé le mot tout à l'heure, d'ailleurs. Parce qu'on a vu le capitaine, on a vu enfin, plein de personnages, un gueux, un gentilhomme, que sais-je encore. Là, c'est important. Là, c'est important. Tout à l'heure, ça n'en était pas, c'était des types. Vous voyez, c'était pas des personnages, c'était des types représentés. Là, c'est un portrait. Vous avez une idée du personnage qui peut être représenté
Louis
ici
et son fils.
Pardon?
Louis XIII et son fils.
Ah, ça pourrait, mais c'est pas.
Le duc de Lorraine.
Ça pourrait être le duc de Lorraine, hein, vu les atours, ça pourrait être ça, mais ça n'est pas non plus.
Ce fameux créateur de temps de dessin, c'est un de dessin visage.
C'est une commande, non?
Je ne crois pas. Enfin, pas seulement.
C'est pas lui?
C'est pas un autoportrait.
Ah. C'est un noble.
Disons un personnage qui a une certaine
prestance.
Et richesse aussi.
Et puis il y a un écusson au-dessus de sa tête.
Chancelier de Chancelier
Portugal.
Je vous lis, hein. À Claude Deruet, écuyer, chevalier de l'ordre de Portugal, son fidèle ami Jacques Callot. Nancy 1632. Donc c'est un ami de Callot qui représente Deruet. Claude Deruet, ça vous dit quelque chose?
Non.
Eh bien c'est un collègue à lui. Claude Deruet est un peintre. Un peintre qui travaille volontiers pour la cour, c'est un peintre lorrain, Deruet. Un peintre qui donc travaille volontiers pour la cour de Lorraine, pas que d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez pas de Claude Deruet, des peintures tout en longueur, qui sont au musée d'Orléans aujourd'hui, qui avait été commandée par Richelieu pour son château de Richelieu. J'avais eu l'occasion il y a des années de faire un cours sur le château de Richelieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent. Château de Richelieu est un château qui a complètement disparu, qui était à Richelieu. Richelieu, vous savez, c'est une ville de l'Ouest avant, qui est ville établie par Richelieu. Près de laquelle Richelieu avait construit un château. Hein. Château qui est presque entièrement détruit aujourd'hui. Il ne reste plus que les douves et puis un pavillon. Tous les décors qu'il y avait à l'intérieur ont été dispersés un peu partout. Il y en a encore pas mal à Orléans, qui n'est pas très très loin de Richelieu. Richelieu était entre Tours et Orléans, pour soi. Donc Deruet avait fait pour le château de Richelieu, commandé par Richelieu lui-même, la représentation des éléments, des tableaux tout en longueur, par exemple le feu, l'air, l'eau, etc. Ça vous dit rien, ça? Voilà. En tout cas, Deruet est un personnage assez célèbre. Oui, c'est un collègue, en fait, de Callot. Il est également lorrain, Deruet. C'est un ami, hein, Callot le dit clairement dans la dédicace, car c'en est une aussi. Hein. Voilà, et c'est donc le portrait de Claude Deruet de son fils Henri. Chose intéressante, alors que je ne vous ai pas montré pour les autres, que j'aurais pu vous montrer, on a notamment pour ce portrait-là, mais j'aurais pu vous montrer ça pour bien faire une gravure, hein, on a par exemple ce dessin. Parce que je vous l'ai quand même un peu suggéré tout à l'heure, hein. Si vous voulez, Callot est un très très grand dessinateur et qui dessinait avant de graver, ce qu'on peut comprendre. Hein. Et là, vous avez un exemple d'un dessin préparatoire qui est à l'envers.
C'est parce qu'il est gravé de toute façon à l'envers.
Pardon ?
Le rendu est à l'envers.
Eh bien oui, donc il faut. Voilà. Or, quelquefois, il y a des graveurs qui se débrouillent pour faire l'envers de l'envers pour que ce soit l'endroit, si j'ose dire. Ça, c'est. Voilà. Mais en général, effectivement, le dessin est l'envers de la gravure et vice-versa. Mais enfin, ce qui vous montre au passage la qualité de dessinateur du
ah, oui, oui,
c'est vraiment. Des monstres marins et des personnages. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, un spectacle. C'est en fait un spectacle, des décors de spectacle.
Ah?
Ouais. Parce qu'en fait, il y avait à la cour de Lorraine, qui est une cour très brillante, hein, la même magnificence spectaculaire qu'à celle de Florence. Et ça, Callot, qui avait, on l'a vu tout à l'heure, hein, déjà officié à Florence dans ce domaine, bah, enfin, la même chose à Nancy, si vous voulez. Est-ce que vous voyez là, c'est un spectacle. Avec, dans ce spectacle, l'entrée des personnages que vous voyez là. Que quelquefois, dans ces spectacles, voilà, il y a beaucoup de machinerie. Hein, donc on n'hésitait pas à ce que des espèces de monstres marins débarquent, hein, dans une fausse mer, hein. Ça a été actionné par des machineries diverses et variées, et quelquefois intervenaient dans les spectacles des personnages de la cour. Et là, c'est l'arrivée de ces sieurs, machin, Vrancourt, etc., Tignon.
En musique, apparemment, parce qu'il y a un joueur de lutte.
Oui, alors ce joueur de lutte, il évoque quoi? Parce que là, il y a ces messieurs sur une sorte d'énorme baleine, hein, mais lui, ce personnage qui joue de lutte. Hein.
C'est le conteur?
Peut-être. Est-ce qu'il vous rappelle quelqu'un? Enfin, quelqu'un. Oui, quelqu'un.
Une divinité qui joue de la musique.
Un personnage qui a à voir avec un dauphin comme ça. Non.
Jonas.
Alors, ça fait penser à Jonas. Hein. Mais Jonas, on ne le voit pas trop en train de jouer la musique. Vous savez que ça fait penser à Jonas. Parce que bien, Jonas a été, vous le savez, flanqué par-dessus bord, avalé par une baleine, qui est la régurgité. C'est une manière d'évoquer, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, l'idée de la mort et de la renaissance. Hein.
Voilà. Mais il ne jouait pas du luth.
Voilà, il ne joue pas du luth. Et là, il n'est pas avalé par le dauphin. Il est dessus. Ben, en fait, il y a dans la mythologie gréco-romaine un peu l'équivalent laïque, si j'ose dire, de Jonas. Il est dit qu'un poète qui s'appelle Arion, un jour lui aussi a été guidé par-dessus bord, mais il a été sauvé par un dauphin, hein, qu'il a pris sur son dos. Et Arion, qui était un poète, s'est mis, n'est-ce pas, à déclamer des vers sur le dos du dauphin. Donc là, vous voyez qu'il y a une sorte de prétexte mythologique, hein, et puis il y a l'arrivée de trois hauts personnages qui sont ainsi dressés sur le dos de la baleine.
Oui,
c'est un peu ça. Oui.
Voilà.
Donc, effectivement, alors, cette fête s'appelait le combat de la barrière. Alors, c'est pareil, il y a toute une série, hein, toute une série de scènes, hein, et qui se termine par une espèce de combat de part et d'autre d'une barrière. C'est un truc assez... D'où le nom de combat de la barrière, qui est une grande fête qui a été donnée en l'honneur, peut-être dire, de la duchesse de Lorraine.
Ça, c'est un assemblage de plusieurs
cartes. Voilà. Ça représente quoi, d'ailleurs?
Des bateaux.
Un siège.
Oui.
C'est le siège de...
De
La Rochelle.
La Rochelle, absolument. C'est le siège de La Rochelle. Donc, ce qui vous suggère quoi à nouveau?
La guerre.
Bah oui.
C'est loin, La Rochelle.
Ouais.
Oui, mais il y a Richelieu par derrière.
Pardon?
Il y a Richelieu.
Et voilà. Il y a Richelieu derrière. Encore une fois, n'est-ce pas, vous avez là cette accointance qu'il y a avec ce Lorrain d'un territoire pourtant en guerre, hein, avec malgré tout la couronne de France via Richelieu, si j'ose dire. Et Richelieu a commandé à Callot cette espèce de carte, hein, qui est énorme, hein. Ça fait plus d'un mètre cinquante de haut quand même, hein. Et c'est fait à partir de six plaques de cuivre différentes, et donc il y a six planches côte à côte. C'est quand même impressionnant, hein.
Il y avait un
Oui, oui, ça fait très drôle. En tout cas, ça vous montre que vous avez des quantités de petits soldats, vous voyez partout. Hein. Et puis des tas de bateaux. Enfin, vous voyez là aussi le caractère incroyablement vertigineux hein, d'une œuvre telle que celle-là. Hein. Voilà. Le siège à Rochelle. Alors, on va terminer tranquillement. Hein. On ne va pas aller trop loin. On va pas dépasser.
Oui, il y a un incendie là, oui.
Oui.
C'est un pillage.
C'est un pillage.
C'est Vassy, non ?
Vassy ?
Où les protestants ont été.
Même pas. Mais c'est vrai que ça y fait penser. Oui, il a d'ailleurs fait une gravure, par exemple, aussi la démolition d'un temple protestant.
C'est Israël.
Donc, ça, par exemple, les scènes de pillage, on pille quoi ?
Une église.
Ou une chapelle. Alors là, ça appartient à un cycle dont vous aviez parlé, les malheurs de la guerre. Vous voyez, alors, parce qu'encore une fois, vous imaginez qu'on est à l'époque de la guerre de 100 ans, c'est pas joli, joli, tout ce qui se passe dans ce territoire de l'Europe, et ça dure un certain temps. Hein. La guerre de 30 ans a duré plutôt plus, d'ailleurs. Hein. Et donc, Callot a représenté beaucoup de scènes évoquant ce conflit terrible. Alors, en fait, il a fait deux séries. Ça, c'est la série des petites misères de la guerre. Voilà. Donc, c'est des gravures de cette taille-là, si vous voulez. Et puis... Terrible, hein ? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Il a fait une série qui s'appelle Les grandes misères de la guerre, où c'est donc là des grandes gravures. Et qui. Alors, c'est pas la reprise des petites misères, mais voilà. Bon, ce qui est intéressant, c'est que. Avant d'arriver dans une scène comme ça, quel est le but de Callot ?
Montrer l'horreur, de témoigner.
Alors, oui, voilà, de témoigner, montrer l'horreur de ce qui se passe, de ce qu'il voit, de ce qui est quand même son quotidien. Hein. Ouais. Et au-delà de ça.
Il y a une croix à droite.
Il y a des spectateurs.
Oui. Oui, puis il y a les supplices qu'on amène juste à droite, qu'on va amener vers là, qu'on va prendre.
Oui.
Hein.
Oui.
Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que. Comme vous le voyez, ne serait-ce que dans le titre, Callot ne va pas se référer seulement et explicitement toujours à la Lorraine et à la guerre de 30 ans. Il va un peu au-delà. C'est une sorte de dénonciation de l'idée de la guerre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose qui est plus universel que simplement la guerre qu'il voit et qu'il connaît. Voilà. Donc toutes ces horreurs qu'on voit quelquefois dans d'autres sens. Il y a des gravures qui montrent comment des populations se révoltent contre les soldats aussi. Hein. Et voilà, en fait, tout le monde en prend pour son grade, si j'ose dire. Voilà. Tout ça prend un certain sens aujourd'hui, d'ailleurs.
Oh, mais ça, c'est la crucifixion.
Oui, la passion. Vous avez là, parce qu'il a fait également toute une série sur la passion. Donc là, c'est effectivement la montée au calvaire. Hein. On l'appelle la grande passion, parce que c'est pareil, c'est des gravures d'assez grande dimension. Et puis, comme vous pouvez l'imaginer, il a fait une petite passion. Voilà, où là, c'est des petites gravures, toutes petites, assez intimes. Et là, vous voyez notamment
la flagellation.
La flagellation, voilà. Donc, d'ailleurs, une petite gravure de petite dimension. Donc, vous voyez qu'il y a aussi chez lui une dimension religieuse. On n'avait pas tellement vu pour l'instant.
Non,
et ça ?
Un saint.
Voilà, il a un auréole, on le voit bien. Donc ça vous rappelle quoi ?
Saint-Antoine.
Oui. Alors, au niveau du thème, oui, ça peut rappeler Saint-Antoine, mais au niveau de la façon dont c'est conçu.
Le personnage.
Voilà, c'est toujours pareil.
Avec le décor derrière.
C'est ça. Vous rappelez les pantalons et la comédie dell'arte, le noble dans son gentilhomme, vous voyez. Il fait comme ça toute une espèce de typologie de personnage. Et de la même manière, de toute façon, les apôtres, ça c'est Saint-Jude de Thaddée, avec un son de son martyr qui est la hache. Hein. Voilà. Il a fait donc toute une série de grands apôtres. C'est des gravures qui ne sont pas toutes petites, mais avec une espèce de collection d'apôtres. Et alors, tout comme il a fait des grands apôtres, il a fait, voilà, les petits apôtres, au moins les petits martyrs d'apôtres. Hein. Là, j'ai choisi aux arts le martyr de Saint Matthieu, vous voyez.
Au hasard.
Voilà. Les petits apôtres, hein, où il montre de manière effectivement sur des petites gravures.
Il est où à Saint-Matthieu ?
Il est là. Il a été décapité. Hein. Voilà, on arrive vers la fin.
Ah ben là, il y a quelqu'un. On lui envoie des flèches.
C'est Saint-Sébastien. Ah, c'est une vision très singulière, Saint-Sébastien. Il y a une foule énorme, il est là tout seul sur son poteau. C'est vraiment une façon de représenter ça qui est très différente de ce qu'on a vu. Toujours, c'est le goût du théâtre, le calot. Hein. Il théâtralise les vues, on l'a vu depuis le départ. Hein. Là aussi, hein, il y a un côté théâtral, quoi. Et vous voyez que toujours comme il y a les personnages en contrepoint au premier plan, très noirs.
Et ensuite, on va vers le plus clair.
Voilà, je crois qu'au bout d'un moment, voilà, Callot, on connaît, quoi. On voit, on sait comment ça se passe. Ouais. Voilà. Et puis, je voulais vous passer une dernière œuvre qui ne vous étonnera pas.
L'avarice,
voilà. Donc là aussi, qu'est-ce que vous diriez d'une gravure telle que celle-là ?
C'est une série.
Voilà, ça appartient aussi à une série. Il représente de quoi ? Les sept péchés capitaux. Hein. Là, effectivement, c'est l'avarice. Vous voyez notamment le petit diable qui est sur sa tête. Hein, qui est assez terrible. Hein. On n'a pas envie d'être avare quand on regarde ça.
Vous n'avez pas la luxure.
Voilà, en tout cas, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est-à-dire, je trouve que c'était important de regarder l'œuvre de ce graveur, qui est uniquement graveur, donc en fait, n'est pas peintre, qui est vraiment un grand maître de la gravure en France au XVIIe. Hein. C'est un des plus importants. J'ai voulu mettre ça vraiment dans l'ordre chronologique pour qu'on voit aussi une évolution et puis une sorte de répétition. Bon, il passe de Florence à Nancy. On voit aussi qu'au départ, il est très inspiré par un certain pittoresque. Il ira vers la fin de sa vie vers des choses plus mystiques, plus religieuses. Vous avez vu l'évolution de ça. Hein. Voilà. Et je crois que comme on a fait ce soir, hein, mon expression, bouffer du calot pendant une heure et demie, hein, on le reconnaît. Mais c'était le but. Je crois qu'on comprend à la fois ce qu'il est et quel est son art et son style.
Yes. Alors pourquoi il faisait que des séries ?
Il n'a pas fait tout à fait que des séries, mais c'est vrai qu'il en a fait un certain nombre. Ben, on peut avoir envie chez soi d'avoir, par exemple, les sept péchés capitaux. Vous voyez ? C'est une chose qui est. Que l'on peut mettre d'ailleurs dans un encadrement comme dans plusieurs. On peut dire les gravures, quelquefois, les épingler directement sur le mur, sans même les protéger. Hein. Ça se fait. Voilà. Donc l'idée de la série est une chose assez goûtée, si vous voulez. Elle peut l'être en peinture. Hein. En peinture, vous avez, par exemple, quasiment à la même époque, hein, des artistes flamands ou hollandais qui vous font des séries de péchés capitaux, ou les cinq sens, ou, vous voyez. Hein. Il y a l'idée de la série artistique est une chose, d'ailleurs un thème intéressant, mais une chose qui est assez goûtée, si vous voulez. Souvent, on a des paysages en pendant, qui nous permettent d'en avoir deux sur un mur. Voilà. Donc la série, l'idée de l'art sériel est une chose assez, assez développée.
J'avais envie de dire que ça lui évitait de chercher des sujets.
des idées de sujet.
Oui, il oui. Faut trouver les idées de série. Oui. Voilà, bah, je crois qu'on aura bien vu Callot cette fois. Bah, bravo à vous. Hein. Vous avez vu l'espèce de grenouille derrière?
C'est un crapaud, oui.